Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons dans nos lectures en liberté ce soir avec la suite du roman de Roger Vercel, Capitaine Conan. La prison était située près des quais de la Dimbovitsa, ce fossé d'eau jaunâtre qui ne traverse que les quartiers râpés de Bucarest entre deux talus de gazon. Il grouillait ses quais sous le soleil blanc de loqueteux vêtus de toisons sales et de kojoks en parchemin. Beaucoup avaient des faces de moutons longues sans lèvres où somnolaient des yeux jaunes et bons. Des bœufs attelés à des chars mal équarris fumaient des naseaux. Ils stationnaient derrière des amoncellements de légumes et de laitages, piments écarlates, maïs et beurre doré, choux et poivrons verts. Les paysannes semblaient détenir tout le mouvement de la vie du pauvre marché. Les commères à large face bavardaient avec une volubilité de moulin. Des tziganes cuivrées passaient. De lourds sequins leur tiraient leurs oreilles. Elles riaient de leurs dents de louve, de leurs seins secoués par les camisoles crevées. J'eus le plaisir de faire sensation en flânant au bord des marchandises. Un uniforme français était un événement dans ces quartiers excentriques où ne nous égarions guère. La sympathie se manifestait par les interpellations joviales des paysannes à forte croupe, leurs rires gaillards, les cacioulas que les paysans soulevaient à mon passage. Je gardais à travers ce triomphe le sourire idiot du monsieur comblé. Stada Santeanica. On me la montra. Une longue rue débouchant sur le quai. Une maison, un jardin, un terrain vague, puis un jardin, un terrain vague, une maison. Toujours cette impression d'inachevé que donne cette grande ville hors de ses quartiers riches. Elle semble avoir eu la paresse de remplir ses vides et ses temps indolentes dans la plaine sans fin en laissant errer librement ses maisons éparses. La prison, numéro 18, c'est bien cela. Pas de façade, des bâtiments en croix irrégulière où il faut d'abord découvrir une entrée. Il faut ensuite se guider à travers des cours sordides, des corridors jaunes. Une porte s'ouvre enfin sur des éclats de rire et des voix. Un gendarme paraît, tout de suite respectueux. « Par ici, mon lieutenant. »« Ah, ça m'est une prison, ça ?» Voici la seconde fille que nous croisons à moitié nue qui va chercher de l'eau, un broc à la main. En voici une troisième, des filles mal peintes et tristes, de la fille à Dilley. Elles ont souri aux gendarmes, un sourire humble et complice. Et cette porte qui s'ouvre à notre passage, assez pour ne laisser aucun doute sur le lieu. J'interroge. Bah, « c'est un hôtel !» me répond pudiquement le gendarme. « Nous, nous avons deux ailes. » L'hôtel a gardé les deux autres. Soit, puisque l'état-major accepte le partage. On m'introduit dans une petite chambre à cheminée de marbre, une petite cheminée de chez nous, pour pendule à sujet et flambeau de bronze. Mais elle est extraordinairement graisseuse et le papier tombe des murs. Il y a aussi une table de cuisine et un tabouret dépaillé. C'est le greffe. Le gendarme est parti à la recherche de mes clients. Un instant après, j'entends chuchoter derrière la porte. « Boutonne-toi, voyons !» Et le premier accusé est introduit. Le gendarme, discrètement, attend dans le couloir. Je me présente, j'y vais du petit speech liminaire que j'ai préparé, une sincérité totale et de rigueur. C'est seulement dans cette franchise complète, détaillée, que le défenseur trouvera les éléments, etc., etc. Le type m'approuve poliment. Je le regarde dans les yeux. Alors ? Eh ben voilà, mon lieutenant. On était de corvée de nettoyage au magasin de l'intendance. Il y avait des ballots de couverture et comme on gelait dans la carrée, que tous les carreaux ont pété, que tous les matins on se réveille avec les pieds en frigo, j'ai pris deux couvertures, voilà. Vous les avez emportées ? Ah non, j'en ai fait un ballot, puis je l'ai balancé par-dessus le mur et j'y suis revenu les chercher le soir. Seulement, j'avais pas eu le temps de remettre la pile debout. Le magasinier s'en est tout de suite aperçu, il a été demander au bureau le nom des types de corvée. On a fait une virée dans la chambre et on a retrouvé les couvertures sur mon pachot. C'est simple, trop simple. Je sens tout de suite que ça va être très difficile à plaider. Afin d'introduire dans l'affaire un élément moral qui lui redonnera de la hauteur, je demande « Mais ces couvertures, vous n'aviez pas l'intention de les garder. En cas de départ, par exemple, vous les auriez rendues. » Cette supposition l'abasourdit visiblement. Enfin, il se met à rire. « Bien sûr que je ne me serais pas appuyé le paquet s'il avait fallu recommencer les marches. Maintenant, mon lieutenant, je vais vous dire, allez les reporter, ça aurait été le meilleur moyen de se faire paumer. » Évidemment, j'ai réclamé de la franchise, je suis servi. Enfin, vous avez la croix de guerre ? Oui, mon lieutenant, deux citations. Bon, vous m'en donnerez le texte. Il se fouille, étant avec précaution sur la table deux feuilles sales aux plis coupés. Je lis « Une mitrailleuse en champagne, un sergent blessé ramené dans nos lignes. Excellent. » Mon voleur laisse alors voir toutes ses pensées. Ils ne vont pas retarder ma démobilisation. J'ai 5 semaines de prévention. Pour 2 couvertures, c'est bien payé. Plaignez-vous, vous n'êtes pas mal ici. Il rit d'un air entendu. Non, bien sûr, mais enfin, ça compte tout de même. On fera ce qu'on pourra. Il salue, puis brusquement mettant la main. Merci, mon lieutenant. Et je serre cordialement cette main criminelle. À l'autre. L'autre, c'est un arabe qui n'entend pas un mot de français mais qui tout de suite se lance dans une justification rauque qui lui découvre le dent et qu'il ponctue de serments paume ouverte. Je lui fais signe de s'arrêter et de laisser parler le caporal interprète. Il s'agit d'un train manqué au cours d'un déplacement. L'arabe a rejoint 4 jours après. Ça se nomme désertion à l'étranger et ça vaut de 2 à 5 ans de travaux publics, mais ça peut aussi s'arranger si les juges ont voyagé sur les lignes grecques. Au troisième. Celui-là, c'est un territorial tout voûté par l'infamie, un brave homme pour qui le conseil de guerre a toujours étincelé à un horizon d'épouvante. Comme la maison de correction dont on menace les enfants de bourgeois, il s'effondre d'y être livré aujourd'hui. Dans le civil, c'était chauffeur dans un château. C'était respectueux, bien embouché, ganté. Ça ouvrait aux vieilles dames les portières de voitures démodées. Ça avait de si bonnes manières que notre général n'avait point hésité à lui confier le volant de sa Ford. Maintenant, c'est déserteur. 5 jours d'absence constatés, et ça bafouille éperdument en alignant des références comme dans un bureau de placement. Impossible de poser une question. « Mon vieux, voulez-vous me permettre ?»« Tout ce que vous voulez, mon lieutenant. »« Eh bien, pourquoi êtes-vous parti ? Pourquoi êtes-vous resté 5 jours dehors ?»« Car je ne parviens pas à m'expliquer qu'il ait lâché son filon, puis qu'il ait tourné 5 jours autour de Bucarest, dont les faubourgs sont cependant peu folâtres, avant de se remettre aux mains d'un officier de tringlot qui l'avait fort embarrassé. » Les regards au sol, il répond. Un coup de cafard, mon lieutenant. J'avais perdu la tête. Je sais bien qu'une tête ne se perd pas si longtemps, et j'insiste. Je recommence, avec plus de conviction, mon petit speech sur la nécessité pour le défenseur de ne rien ignorer de la faute. Je vais jusqu'à déclarer que l'avocat est un confesseur. Ce dernier mot a raison de ses hésitations. Alors, d'une rhétorique balbutiante, pleine de réticences pudiques, de douloureuses suspensions et de gémissements, je parviens à extraire ces deux propositions. Il est parti parce qu'il en avait jusque-là de conduire l'auto du général qu'il attachait nuit et jour à son volant. Il est resté parce qu'il a rencontré une petite. Le démon de midi, quoi. Oh là 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 là, comme ça s'en mange mal. Naturellement, je suis seul dans le secret. Les rapports au dossier déclarent tous ne rien comprendre à cette fugue prolongée, et le général, outré d'une telle ingratitude, furieux de surcroît d'avoir dû confier sa voiture à un conducteur de camion, ne l'a pas raté au virage. Et voilà qu'il me conjure de ne point révéler cette défaillance de la chair, ce réveil brutal de l'éternel cochon, sa famille, ses anciens maîtres. Ça va être facile, sans l'aide de la petite roumaine, de trouver une explication plausible à ces 5 journées de Nouba. Je le lui fais remarquer, mais il ne veut rien entendre et semble insinuer que c'est moi que ça regarde maintenant que je suis au courant. Enfin, il s'en va en assurant qu'il n'oubliera jamais que toute sa reconnaissance, etc. J'aime mieux la crâne poignée de main du premier. Et c'est tout. Je n'ai que ces 3 affaires. L'autre avocat d'ailleurs n'est pas mieux partagé. Une grivellerie, une désertion, un outrage. Vraiment, Conan avait raison, la machine tourne à vide. Le gendarme me remit dans la rue, non sans que mon passage, cette fois mieux signalé, n'ait causé quelques émois aux tristes prisonnières du lieu. Il fallut défiler entre leur maigreur, leurs yeux fiévreux. Des filles sans effronterie, minables. Le gendarme les écartait en jouant à merveille une confusion aigriarde. Mais il s'épouvanta de ce que je hochais la tête, car il pensait que j'étais mécontent de ce voisinage nuisible au prestige de la justice militaire. L'audience me rappela le baccalauréat et les couloirs de la faculté. Ce corridor était lui aussi encombré de candidats qui avaient le tract. Ça se voyait à leur frottement de mains, à la succion des lèvres qui cherchaient de la salive. Derrière la porte close, les premiers appelés étaient déjà en train de plancher. Moi-même, dont ça allait être le tour, je relisais fébrilement mes notes. Car les notes étaient permises. C'était au moins une supériorité sur le bachot. À part ça, tout était pire. Il faudrait, comme au bac, parler en public pour la seconde fois de ma vie, et ce ne serait pas devant le tremblant public d'examen formé de parents et d'amis plus anxieux que le candidat. Il y aurait 5 juges au lieu d'un, mais l'enjeu surtout m'effrayait épouvantablement. La gorge nouée, je me disais que ces notes qui ne me semblaient plus avoir aucun sens, ces chicanes stupides que j'avais découvertes, devaient sauver 3 malheureux bougres d'interminables années de travaux forcés. Si je bafouillais, c'était la vie de ces 3 malheureux brisés.
J'avais peu d'appât, drôle de nez plat, les yeux insoumis d'une romanie, quand la diane sonnait dans toutes les casernes, sous une poterne, ventre creux j'espérais. Rose des bois par-ci, rose des bois par-là, saute ma mignonne, t'auras du rata. Quand le clairon sonne, mon cœur m'abandonne, mais je n'ai personne à qui dire tout ça. Je naquis dans un bois, près de Toul, je crois, le 6-9 m'a pris la route de Nancy, clairons et tambours de l'infanterie, trompette d'artillerie, sans mes troubadours. Rose des bois par-ci, rose des bois par-là, à la nuit je danse seul avec les rats. Ma joie est immense, ma peine une offense, car j'ai l'insouciance d'une fille à soldat. Dans l'épais brouillard qui mouille les remparts, avec les rabouins je chinais mon pain. Mais quand le bataillon prenait le pas de route pour casser la croûte suivait les griffetons. Rose des bois par-ci, rose des bois par-là, c'est la ritournelle, mon Ave Maria. Je me tape la gamelle à la porte Moselle, à la vie est belle, je me demande pourquoi. Quand j'irai crever au fond d'un terrier, un peu sans façon, un clochard fripon portera la croix selon les usages. En cet équipage, j'irai du pied droit. Rose des bois par-ci, rose des bois par-là, pour tout héritage, je laisse aux soldats la peau de mes tatouages et mes badinages, afin qu'il rengage et qu'il prie pour moi.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Capitaine Conan, Roger Vercel. J'eus pendant une seconde le désir éperdu de m'en aller. Je ne pourrais pas dire un mot, j'en étais sûr. Tout au moins, il fallait que je descende dans la cour, que je marche un peu à l'air, que je me détournais. Les visages des préventionnaires, les képis des gendarmes fermaient l'horizon. Une tête plus haute que les autres me fit un petit signe. Je reconnus mon voleur de couverture. Je cherchai des yeux mon chauffeur déserteur. Je rencontrai une tête tombée sur une épaule, un ecce homo lamentable. Et ce fut moi qui lui adressai un encouragement du menton auquel il répondit par une inclinaison navrée comme la famille en distribue aux portes des cimetières. Puis j'aperçus le visage levé de l'arabe qui cherchait à voir, à comprendre. La vue de mon équipe me ragaillardit quelque peu. Je reçus un coup de poing dans le dos. C'était Conan, tout congestionné, qui était parvenu à sortir de la salle. Il dit très haut dans le silence angoissé du corridor « Oh, mais quelle chaleur dans leur tôle, il y a de quoi claquer !» Puis il me proposa « Amène-toi, fumer une pipe dehors, pas la peine d'entrer, les déconophobes fonctionnent à plein tuyau là-dedans. » Je lui objectai que mon rôle d'avocat allait commencer. « Ah, c'est vrai, dit-il, t'es dans la veuve et l'orphelin. Eh bien, je vais te donner un conseil. Réveille-les. Ils roupillent, mais ils roupillent mal parce qu'ils n'osent pas. Alors ça les fatigue. Le type qui les réveillera, soit en les engueulant, soit en les faisant rigoler, celui-là les possédera jusqu'au dernier poil. Là-dessus, je me déguise en courant d'air et je fous mon petit camp. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui chez ma ration. Ah, dis donc, prête-moi 100 leys, ça apportera bonheur à tes clients. » À ce moment, la porte s'ouvrit et l'assistance reflua. Une affaire finissait et les juges devaient rester seuls dans la salle du conseil pour délibérer. On s'écrasait dans le corridor. L'accusé, un artilleur à écusson rouge, les yeux au sol, parvint à peine à sortir entre deux gendarmes. On n'attendit pas une minute et la porte se rouvrit. Un murmure courut. « Acquitté, acquitté !» C'était certain. Une délibération si courte annonçait l'acquittement à l'unanimité. La porte ne s'était pas refermée et j'apercevais les poilus debout derrière la garde qui s'était raidie aux présentées armes. Tête nue, tête levée, ils écoutaient la sentence. J'entendais la voix du président sans pouvoir, d'où j'étais, distinguer les mots. Je vis enfin sortir l'accusé. Quand la voix se fut tue, un garçon assommé de bonheur, confus comme si l'on venait de le décorer. Il lui fallut traverser les rangs de ceux qui attendaient. Ils lui firent place en regardant de quels yeux. Il s'en allait, avide de retrouver la rue, d'y marcher droit devant lui tout seul. Ce ne fut qu'au dernier rang qu'il comprit combien il était mufle avec son bonheur. Alors, il se retourna pour annoncer Ils ne sont pas durs, non ? Non. Cela va les aider à attendre. Lédard ! Le greffier appelle le suivant. Ce n'est pas un des miens, mais par la porte entrebâillée, le gendarme, mon gendarme de la rue Santenica, m'aperçoit et me fait signe d'entrer, me pousse au premier rang, puis une chaise s'appuie avec insistance en haut de mes mollets, je me retourne. Son bras brisqué d'argent est au bout de la chaise, elle est bien pour moi. Ce que c'est quand même que d'avoir fermé les yeux sur le bagne des femmes annexées à la prison militaire. Je regarde. Cette salle n'est qu'une chambre à coucher tapissée de papier à fleurs. Au fond, derrière une table à couverture brune où sont couchés les sabres, les juges, colonels, commandants, capitaines, lieutenants, sergents. Le rapporteur a une petite table à droite, le défenseur a une petite table à gauche. Levez-vous, vos noms, prénoms. Lédard François. Lieu et date de naissance, Amiens, 26 août 1895. Vous êtes accusé d'outrage par paroles, gestes et menaces envers un supérieur. Mon colonel, je vous parlerai tout à l'heure. Je vous notifie simplement l'inculpation. La parole est au commissaire du gouvernement pour la lecture de son rapport. Voilà mon adversaire. Celui contre qui, tout à l'heure, c'est un lieutenant de chasseurs à pied qui a gardé l'uniforme bleu marine comme Conan. Rasé, 35 ans au jugé, l'air froid, boutonné, inexorable. Il lit une feuille épaisse, une lecture lente, ennuyée, mais frappée d'un accent toulousain qui donne à ce débit glacé une cocasserie étonnante. Le 13 décembre à 18h30, le maréchal des logis Touchard, se promenant dans la Calea Victoria, remarqua un militaire visiblement pris de boisson et de tenue débraillée. Bien que n'étant pas de service, il l'aborda pour lui faire des observations et l'engager à rentrer à la caserne après avoir rectifié sa tenue. Le militaire, le soldat de deuxième classe, Lédard François, du 13e régiment d'infanterie, lui répliqua « Tu n'es qu'un crâneur et une vache, je t'emmerde et si je me retenais pas… » Il fit un geste de menace dans la direction du gradé qui, afin d'éviter un scandale public, n'insista pas et se mit à la recherche des hommes de garde. Avant son retour, des camarades avaient emmené Lédard, qui rentra à la caserne sans nouvel incident. L'accusé ne nie pas les faits, il déclare ne s'en plus souvenir. La déposition du maréchal des logis qui figure au dossier est corroborée par le témoignage du lieutenant roumain Protopopescu, qui figure également au dossier. Les chefs de Lédard le présentent comme un soldat discipliné, mais peu énergique. Le commissaire rapporteur se rassit après ce rapport sans passion. Et l'on entendit le maréchal des logis Touchard, un jeune gars élégant, sous-officier des dragons, bien ganté, qui vint recevoir les compliments du tribunal pour s'être préoccupé, même en dehors du service, du bon renom de l'armée française. Il les reçut, figé dans un garde-à-vous à la fois fanatique et déférent. Lédard semblait avoir vu juste, un crâneur certainement, et peut-être une vache. Puis le commissaire se leva pour le réquisitoire. C'était là que je l'attendais avec anxiété, là que l'éloquence militaire allait tracer une image durement colorée de ce fantassin dépenaillé sur qui reposait, comme sur nous tous, nous l'avait-on assez dit, l'honneur de l'armée française et qui le piétinait l'ivrogne au lendemain même de notre entrée triomphale. Le lieutenant rapporteur allait déplorer la douloureuse blessure faite à notre prestige, affirmer que la honte nous atteignait tous, qu'elle atteignait surtout les chefs, parce qu'un tel acte pouvait donner à croire que nous n'étions ni obéis ni respectés. Alors ça deviendrait l'affaire personnelle de chaque juge, de chaque officier. Car nous plastronnions, il fallait voir comme. Et le triste individu qui aurait fait perdre la face à ses supérieurs n'y couperait pas du maximum. Oui, en vérité, je bâtis tout ce réquisitoire en une seconde comme si j'avais dû y répondre, comme on essaie de deviner le jeu de l'adversaire. Or, le commissaire du gouvernement dit exactement ceci d'un air sombre, avec un accent rebondissant, mais sans la moindre fougue. Messieurs, les faits sont prouvés. Il y a eu réellement outrage public à un supérieur. Je demande l'application de la loi. Il se rassit encore, et la parole fut à la défense, effarant. Un lieutenant d'intendance, j'appris par la suite qu'il était clair d'avouer, une manière d'Homais Bilieu avait imaginé de forcer la pitié des juges en étalant la misère de son client. « Regardez, messieurs, disait-il en pointant son index sur le malheureux, regardez cette face de dégénéré. Vous y lirez un abrutissement héréditaire et les stigmates de l'alcoolisme. » Puis il parla de processus et de prodrome, de vertigo et d'accidents secondaires. « Allez-y, messieurs, cette disgrâce que toute la tradition gauloise, depuis Rabelais et les Fabliaux jusqu'à notre grand Molière, a raillée avec verdeur, et que ceux qui en sont frappés ont toujours noyé dans la bouteille, Lédard venait d'apprendre qu'il était, comment dirais-je, sganarélisé par sa femme quand il est entré dans la malencontreuse bodega. » Et il parlait. Olibrius intarissablement, sans se départir d'une sottise vraiment indécente, jusqu'à l'instant où il s'évertua à battre le tambour patriotique dans une péroraison gueularde. Je regardais les juges. Ils souffraient autant que moi. Ah, il était tout acquise leur pitié à ce malheureux qui s'entendait traiter pour son bien d'alcoolique, d'avarié, de cornard et qui devait encore dire merci. Il n'allait tout de même pas l'achever. L'acquittement ne traîna pas, et ce fut à mon tour. Mes clients furent acquittés tous les trois. L'arabe le premier. Il suffit de rappeler avec tout l'humour dont je disposais un voyage en chemin de fer grec, les poilus accompagnant le convoi au pas, la locomotive l'abandonnant à chaque gare pour courir à d'autres tâches lointaines et ne reparaissant que le lendemain, les arrêts en plein bled pour attendre une noce attardée qui avait donné rendez-vous au chauffeur. Or, mon client était tombé dans une manière d'express. Le seul peut-être qui eût établi ce record de ne s'arrêter qu'un quart d'heure dans une gare, celle justement où l'arabe était descendu chercher de l'eau. Une telle rapidité était imprévisible et il était excusable de ne l'avoir point prévu. On s'était étonné qu'il ait mis après cela 4 jours à rejoindre son corps, étonnement légitime s'il en fut, rejoindre dans ces conditions, sans savoir le français, sans connaître la destination du régiment, en usant des seuls convois grecs, et cela en moins de 4 jours, alors que 2 formations avaient, comme c'est l'usage, refusé de le prendre en charge, oui, c'était un tour de force. Les juges amusés avaient souri sans défense contre la bonne humeur, n'ayant appris à se défier d'aucune spontanéité. On sortit. On rentra aussitôt, acquitté. Le chauffeur du général, verdi, vidé par le déshonneur, fondit en larmes à mes premiers mots, une crise violente de sanglots qui le secouait les épaules tellement sincère que cela mit sur tous les visages une commisération profonde et dans ma voix, je l'avoue, un essoufflement d'émotion. Un honnête homme, dans toute l'acception du terme, messieurs, père de famille, une sœur religieuse dont il m'a montré les lettres touchantes. Quant aux 5 jours d'absence consacrés à la jeune Roumaine, qu'il m'était interdit d'évoquer, je les expliquais par l'affolement ordinaire des braves gens qui, ayant commis une faute, une seule faute, sont écrasés par elle et perdent tout le contrôle de soi. La honte, le remords les retiennent au bord de l'aveu de la flétrissure. Je montrai le malheureux tournant autour de Bucarest, décidé à se constituer prisonnier, rôdant aux grilles des casernes et reculant de tout son instinct d'honnête homme devant la prison qui allait s'ouvrir. C'était physique ce recul, c'était la marque même de la vertu. N'était-il pas assez puni par la perte d'un poste honorable ? Les juges le pensèrent, et le second acquittement fut enlevé de haute main. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Roger Vercel, Capitaine Conan, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.